Vous êtes sur RTL.
Ce matin, c'est,
oui,
délicieux,
oui,
c'est ça. Charmant.
Oui, bien sûr.
Bonne journée à toute l'équipe du Petit Matin.
À demain.
Et à demain. C'est donc notre troisième petit déjeuner de campagne. Comme le temps passe, RTL reçoit ce matin le candidat écologiste à l'élection présidentielle, Yannick Jadot. L'homme a une cote de sympathie indéniable, mais jusqu'ici, sa candidature n'a pas vraiment accroché. Et pourtant, l'avenir de la planète n'a jamais été aussi incertain. Est-ce à dire que le Covid, les questions économiques, l'emploi et le coût de la vie dominent la campagne? L'actualité est en tout cas chargée et Yannick Jadot répondra aux questions conjointes d'Alba Ventura et François Langlais dès 7h35. Il sera dans l'œil de Philippe Cavrivière juste avant 8h et prendra un petit café Calvi détendu à 8h10. Avant de répondre à toutes vos questions, à 8h20, n'hésitez pas à interroger le leader des écologistes français à l'élection présidentielle pour dialoguer avec lui en direct. Vos questions au 3210 et le 64 900 code matin. Pour les questions SMS, vous êtes chasseur ou pro-nucléaire, eh bien appelez-nous dès maintenant. D'ici là, une passionnante brigade RTL, et ce n'est vraiment pas neutre vu notre invité ce matin. Christophe Bourou nous aura annoncé que pour la première fois en Europe, on vend plus de voitures hybrides que de diesel. C'est historique. Nous sommes le lundi 29 novembre 2021. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Le variant Omicron arrive en France.
8 cas suspects détectés dans le pays. Le point en début de journal. Jusqu'à 21 km de bouchons sur l'A89 cette nuit. La galère pour les automobilistes encerclés par la neige. La déception des associations d'aide aux migrants après les annonces hier pendant une réunion à Calais. C'est aussi le ballon d'or le plus convoité par les footballeurs. Messi, Lewandowski, Benzema qui recevra le trophée, la réponse ce soir. Enfin, ils sont déjà 580 000 à avoir poussé la porte des cinémas pour découvrir les aventures du duo culte. Les Baudins en Thaïlande cartonnent en salle.
La politique, Olivier Bost.
Et je vous parle d'un calendrier de l'Avent un peu particulier ce matin, le calendrier de l'Avent présidentiel. Tous les jours, un événement politique en décembre.
Vous nous expliquerez tout cela dès la fin du journal.
RTL Matin.
Une course contre la montre pour lutter contre le variant Omicron, les mots de la présidente de la Commission européenne. Londres convoque une réunion des ministres de la Santé du G7 aujourd'hui. Et en France, 8 cas suspects ont été détectés. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
D'abord, est-ce qu'on sait de qui il s'agit?
Alors ces 8 personnes ont été testées positives au Covid à leur retour d'Afrique du Sud, mais elles ne sont pas contaminées par un variant connu. Donc actuellement, on procède au séquençage de leur virus pour identifier formellement Omicron. Ça peut prendre plusieurs jours, selon le ministère de la Santé. Dans l'attente des résultats définitifs, ces 8 personnes se sont isolées, comme c'est la règle, en présence d'un cas positif au Covid. Leur cas contact aussi, même s'ils sont vaccinés, ce qui n'est pas le cas avec le variant Delta. Les cas contacts ayant un schéma vaccinal complet ne sont pas obligés de rester chez eux.
Une annonce, Sophie, alors que plusieurs changements ont lieu aujourd'hui sur le plan sanitaire.
Oui, d'abord dans les écoles, si un élève est contaminé, on ne ferme plus la classe entière. On teste tous les enfants. Ceux qui sont négatifs retournent à l'école. Les positifs restent chez eux. Quant aux élèves de 6e, ils vont recevoir une boîte de 10 autotests à faire à la maison, à raison de 2 par semaine. Et puis, autre changement, à partir d'aujourd'hui, les tests dits de confort que font les personnes non vaccinées pour obtenir leur passe sanitaire, eh bien ces tests ont une durée de validité désormais de 24 heures au lieu de 3 jours à compter de la date du prélèvement.
Merci Sophie Jousselin, on vous retrouve dans le journal de 8h pour la brigade RTL.
La longue nuit de galère pour les automobilistes sur l'A89.
11 départements placés en alerte orange, neige et verglas, dont le Puy-de-Dôme. Forcément, les flocons ont créé beaucoup de bouchons dans les deux sens, avec des voitures à l'arrêt une grande partie de la soirée, Guillaume Frixon.
Oui, il y a eu jusqu'à 21 km de bouchons sur la 89 à hauteur de Thiers dans le Puy-de-Dôme, un secteur avec un dénivelé très important. Alors ce couple, venu de Grenoble, est resté à l'arrêt de 17h30 à 23h hier soir.
Oh, c'était la catastrophe. Franchement, ça a pris trop longtemps que les dépanneuses passent.
Je relativisais en fait en me disant si j'avais mes enfants, ouais, ça aurait été compliqué parce que les toilettes, manger, tout ça, en plus on n'avait pas pris d'eau, on n'avait rien prévu.
Alors si la Croix-Rouge a distribué des centaines de plateaux repas vers 22h30, Catherine a trouvé le temps très long puisqu'elle est restée à l'arrêt avec son fils de 5 ans durant 7 heures.
Dehors c'était un peu surréaliste, les gens se promenaient, sortaient leurs chiens, c'était un peu hors du temps et on avait très peu d'informations, on était complètement démunis.
Alors à partir de 23h et jusqu'à 1h du matin, ce sont donc plus de 600 véhicules à évacuer un à un de la 89.
Je dis que c'est pas normal. Personne n'est venu nous voir, les gens, la gendarmerie est passée devant, personne ne s'est arrêté pour nous demander si on avait besoin de quelque chose. C'est un problème quand même.
L'autoroute reste pour l'heure fermée entre Clermont et Lyon pour sécuriser parfaitement tous les accès.
Guillaume Frixon pour RTL, et on l'a appris il y a quelques instants, l'autoroute a pu rouvrir. Concernant le Nord et le Pas-de-Calais, ils sont en vigilance orange pour risque de crue. Cette nuit, les pompiers ont effectué plusieurs interventions à cause de débordements du bassin de la Lys.
Il est 7h04, une enquête a été ouverte après l'agression d'un policier.
Agression qui s'est déroulée hier à Paris, au centre commercial Italie 2. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
L'homme n'était pas en service quand il a été poignardé dans la soirée pendant une rixe.
Le policier se promène avec sa compagne à l'intérieur du centre commercial quand il se retrouve pris à partie par une bande de jeunes. Ils sont 5 à l'entourer. La discussion s'envenime, l'un sort un couteau et lui assène un coup en plein thorax avant de s'enfuir. La plaie fait plus de 5 cm. Le policier est évacué en urgence à l'hôpital. Le jeune gardien de la paix a-t-il été reconnu? A-t-il croisé le chemin de jeunes à qui il a affaire sur le terrain? Il est encore trop tôt pour le dire, même si, selon les premiers éléments de l'enquête, sa fonction de policier n'était a priori pas connue des agresseurs avant la Rix.
Cindy Hubert du service police-justice de RTL, et le pronostic vital du policier n'est lui plus engagé.
C'est l'image politique la plus commentée ce week-end. Hein. Le doigt d'honneur adressé par Eric Zemmour à une passante à Marseille.
Une femme qui lui faisait également un doigt d'honneur. Hier, le polémiste a reconnu un geste, je cite, fort inélégant de sa part. Invitée hier dans le grand jury RTL Le Figaro LCI, Marine Le Pen a fustigé un manque de crédibilité du toujours pas candidat qu'elle appelle à la rejoindre.
J'ai envie de lui dire que, après tout, on peut servir son pays de mille façons, dans mille fonctions autres que celles de candidat à la présidentielle. Je l'appelle à se rassembler. Encore une fois, je pense que l'exercice de candidat à la présidentielle est un exercice dans lequel il n'est pas à l'aise, il n'apporte pas une plus-value supplémentaire à nos idées. La mue de polémiste en candidat à la présidentielle ne s'est pas faite.
La patronne du RN, Marine Le Pen, hier dans le grand jury RTL Le Figaro LCI.
Alors, comment analyser cette main tendue de la patronne du RN à Éric Zemmour? On posera la question tout à l'heure à Yannick Jadot, le candidat écologiste pour 2022 et l'invité du petit déjeuner de campagne d'RTL dès 7h30. Trouver une solution aux traversées de la Manche par les migrants, c'était l'objectif d'une réunion hier à Calais.
Réunion après la mort mercredi de 27 personnes dans le naufrage de leur embarcation. L'agence européenne de frontières Frontex va déployer dès mercredi un avion de surveillance pour aider les polices à lutter contre ces traversées et contre les passeurs qui les organisent, des demi-mesures, selon François Guénoc, le président de l'Auberge des migrants.
On n'aurait presque plus à écrire le communiqué avant que Darmanin parle. Il était évident que ça allait être centré sur les passeurs. Certes, elle est importante, la lutte contre les passeurs. Ce sont des criminels, mais la chasse aux passeurs ne va pas résoudre le problème. D'ailleurs, Darmanin lui-même a indiqué qu'ils avaient arrêté 1500 passeurs. En réalité, ils n'ont pas arrêté 1500 passeurs, ils ont arrêté 1500 petites mains, qui sont souvent des migrants. À mesure que les gens sont arrêtés, ils sont remplacés. Donc la lutte contre les passeurs, elle est à faire, certainement, mais elle ne va sûrement pas résoudre le problème qui se pose ici à Calais et sur le littoral. La seule véritable solution pour qu'il y ait moins de monde à Calais et même peut-être plus personne, c'est que les Britanniques rouvrent des voies légales d'accès en Grande-Bretagne.
Le président de l'Auberge des migrants, micro RTL d'Antoine de Carne, les participants à la réunion annoncent aussi vouloir améliorer la coopération avec le Royaume-Uni, absent de l'entretien à cause de tensions avec Paris. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est arrivé en Guadeloupe. Il rencontre aujourd'hui l'intersyndicale pour discuter de l'autonomie proposée à Lille, plongée depuis une semaine dans un conflit social né du refus de la vaccination.
Le foot, Paris reste leader du classement.
Le PSG vainqueur hier de Saint-Etienne 3-1. Sergio Ramos a disputé son premier match depuis son arrivée au club. Un joueur arrive et un autre sort sur une civière. Neymar, victime d'une entorse assez effrayante. Il devrait être absent des terrains pendant plusieurs semaines. Et puis les autres résultats d'hier, victoire de Brest 2-1 à Bordeaux. Rennes s'impose 2-0 contre Lorient et prend la deuxième place du classement devant Nice. Match nul un partout entre Monaco et Strasbourg. 1-0 entre Reims et Clermont. Lyon se relance à Montpellier. 1-0. Enfin, Marseille, péniblement vainqueur de 3. Score final 1-0 également.
Et puis, c'est le retour de la cérémonie du Ballon d'Or hein, ce soir à Paris.
Après une édition annulée en 2020 à cause de la pandémie, plus que quelques heures donc pour savoir à qui sera décerné le trophée le plus convoité de la planète foot, Nicolas Georgerot.
Les votes sont clos depuis un mois et les 180 journalistes du monde entier ont remis leur choix ces dernières semaines. À partir de 16h30, le classement sera révélé dans l'ordre décroissant, le vainqueur connu dans la soirée. Et des 3 Français, parmi les 30 nommés, c'est Karim Benzema qui devrait récolter le plus de voix devant Mbappé et Kanté. Lionel Messi, Robert Lewandowski sont les deux grands favoris. Le Polonais, qui aurait été Ballon d'Or en 2020, sans l'annulation du trophée en période de Covid, espère se rattraper. Mais l'Argentin, sans avoir survolé l'année de la tête et des épaules, a remporté son premier trophée avec son pays, la Copa América. Il y a le palmarès, il y a aussi les critères numéro 2 et 3 du règlement, la classe du joueur, le talent, la carrière, qui tendent à être prépondérant. différents. Voilà pourquoi notamment les joueurs offensifs sont plébiscités et voilà pourquoi le milieu de terrain italien, Jorginho, champion d'Europe avec Chelsea et avec la Squadra Azzurra, ne récoltera qu'une place d'honneur.
Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. Et pour le Ballon d'Or féminin, beaucoup d'espoir sur l'Espagnol Alexia Putellas qui évolue à Barcelone. Et puis en rugby, la victoire impressionnante hier soir de Bordeaux-Bègles face au Racing 92. Score final 37-14. L'UBB conforte sa deuxième place derrière Toulouse. Enfin en tennis, les Bleus disent adieu à la Coupe Davis. Ils sont éliminés, comme l'Espagne tenante du titre, dès les phases de poule de la compétition.
Enfin, retour sur un phénomène au cinéma, les Bodins, en Thaïlande, mais alors cartonne en salle.
Oui, plus d'un demi-million de spectateurs pour la première semaine d'exploitation. Le film est en tête du box-office avec beaucoup de spectateurs en région, comme dans ce multiplex de Tours où vous êtes rendu, Christian Panvert.
Les Bodins, trois places par ici, s'il vous plaît. Bonne séance.
L'assistant de direction du CGR de Tours fait le même constat tous les soirs. Les spectateurs qui se déplacent pour les Bodins en Thaïlande ne sont souvent pas des habitués. Pierrick Chabert.
On a un public qui n'a pas forcément l'habitude de venir au cinéma en fait. C'est vraiment un phénomène les Bodins, c'est voilà, ils viennent voir les Bodins, ils viennent pas voir un film.
Jackie et Alain ont fait plus d'une heure de route pour être là.
Ben nous on a eu l'habitude de les voir à la ferme, au cinéma, c'est la première fois là.
Vous venez souvent au cinéma?
Jamais moi. À part pour les Bodins.
Ça fait du bien de rigoler un petit peu. On allait beaucoup au cinéma dans le temps, c'est vrai, mais là, beaucoup moins maintenant.
Les Bodins, eux, au moins, ils parlent de nous, lancent Dominique et Annie, viscéralement attachés à leurs racines rurales.
On a tendance à oublier qu'on a besoin de l'agriculture pour vivre. C'est bien que ce soit remis un petit peu au goût du jour, parce que je pense que beaucoup de personnes ont oublié ça.
On ne se moque pas du monde agricole, au contraire, et je trouve qu'ils le mettent en valeur, moi.
Les Bodins en Thaïlande pourraient bien créer la surprise en cette fin d'année. Quant au spectacle, la tournée vient de reprendre. 1 500 000 billets sont déjà vendus.
Le reportage de Christian Panvert à Tours pour RTL.
C'est phénoménal. Les courses, elles ont lieu à Vincennes aujourd'hui.
Avec un départ à 13h50, les pronostics de Dominique Cordier, le 16, le 12, le 9, le 14, le 3, le 7. L'As, la dernière minute, c'est le 9. Dream to Guise, attention, le 13 est non partant.
Le journal nous était proposé par Hortense Crêpe. Il est 7h11, la politique avec vous, Olivier Bost. Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors, devenir un sujet de conversation d'ici Noël, c'est la nouvelle ambition des candidats à l'élection présidentielle, Olivier.
Oui, le patron des Républicains, Christian Jacob, a dit tout haut ce week-end dans le JDD ce que tout le monde a en tête. Mmh. Que les discussions du repas de Noël des Français tournent autour de leurs idées et de leurs candidats. Cette volonté est largement partagée, bien au-delà des Républicains, ce qui nous donnera un embouteillage de meetings et d'événements pour tenter de s'imposer. De quoi nous offrir un calendrier de l'avant présidentiel bien rempli.
Bon, alors, je compte sur vous. Il y a quoi dans les petites cases?
Alors, ça commence ce soir avec la soirée de lancement du nouveau mécano de la majorité. Ça s'appelle Ensemble Citoyens. Les LR votent et tiennent leur congrès en fin de semaine. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, au même moment, tiendront meeting. Pour ne pas être en reste, Marine Le Pen joue la contre-programmation en Pologne, comme vous le révélait sur RTL Marie Mollet la semaine dernière. Et puis, le week-end suivant sera aussi occupé par le candidat LR, par Yannick Jadot et Anne Hidalgo. Pour chacun, il faut qu'une idée, ne serait-ce qu'une seule idée, passe dans le brouhaha médiatique. Et jusque-là, c'était très très dur d'y arriver. Il faut que les Français puissent citer une mesure et en débattre. C'est ce qu'a déjà tenté par exemple Marine Le Pen avec ses propositions sur les successions pour que parents et grands-parents parlent argent pendant les fêtes. C'est aussi Éric Ciotti qui veut un Guantanamo à la française ou Valérie Pécresse qui distille l'idée qu'Emmanuel Macron a cramé la caisse.
Justement, Emmanuel Macron a aussi besoin de faire causer à Noël, non ?
Oui, et un ministre s'alarme du manque de réaction politique qu'il provoque, à gauche surtout. Après l'annonce des contrôles renforcés sur les chômeurs, personne n'a hurlé. On a besoin de clivage, se désole ce ministre, et il n'est pas le seul. Un autre ministre me décrivait la semaine dernière un président sortant attentif et inquiet parce que ça se passe trop bien. Emmanuel Macron devrait donc parler nucléaire, sujet clivant avec les écolos, et d'Europe, sujet clivant avec la droite de la droite. En un mot, ne pas laisser indifférent le pire pour un président sortant. Il y a urgence pour Emmanuel Macron à se remettre à être lui aussi un sujet de conversation.
Mais il reste quand même une question, est-ce qu'il n'est pas beaucoup trop tôt pour intéresser les Français à la présidentielle ?
Alors c'est ce que disent, ou ce que disaient jusque-là, pas mal de stratèges, tous bords confondus, pour se rassurer. Ils prennent tous en exemple les sondages qui sont totalement figés, à l'exception du duel à l'extrême droite entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Aucune intention de vote ne bouge. Emmanuel Macron, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot affiche les mêmes scores depuis des semaines et des semaines. Rien ne bouge parce que les Français ne sont pas encore dedans. La guerre de l'attention commence maintenant.
Eh bien, nous demandons donc ce matin à Yannick Jadot quelle est sa grande idée pour animer les repas de Noël. Le candidat vert à l'élection présidentielle est l'invité de notre petit déjeuner de campagne dans une vingtaine de minutes. À partir de 7h35, il répondra aux questions d'Alba Ventura et de François Langlais. Vous pouvez, je vous le rappelle, vous aussi l'interroger à partir de 8h20. Vos questions au 3210 pour dialoguer directement avec lui ou au 64 900 par SMS. Merci beaucoup Olivier Bost.
Merci. Yves Calvi, RTL Matin.
La brigade RTL ce matin et l'incroyable succès des voitures hybrides. Il s'en est vendu plus que des diesels au dernier trimestre en Europe. C'est littéralement historique. Alors pourquoi un tel engouement ? Bonjour Christophe Bourroux.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Christophe, d'abord éclairez-nous. Il existe aujourd'hui sur le marché en fait plusieurs types d'hybrides.
Oui, il en existe deux. Vous avez d'abord l'hybride classique, rendu populaire par la Toyota Prius. Le principe est simple, le moteur thermique est aidé par une batterie électrique, ainsi vous consommez moins. Ensuite, vous avez l'hybride dit rechargeable, parce qu'il faut le recharger, le brancher. En contrepartie, vous bénéficiez d'une autonomie bien supérieure, jusqu'à 50 km en mode tout électrique.
Et cette dernière formule, c'est elle qui plaît de plus en plus.
C'est un vrai carton, plus 120% de ventes en un an, avec des stars comme le Peugeot 3008 hybride ou le Mitsubishi Outlander. Les automobilistes sont finalement attirés par ces versions qui allient le meilleur des deux mondes, électrique et thermique. Dans sa concession de Seine-et-Marne, le patron Olivier Blot doit tous les jours répondre aux questions de plus en plus nombreuses de ses clients.
Bonjour.
Bonjour. Alors, moi, je suis à la recherche d'un véhicule qui puisse me permettre de ne pas être en panne, de ne pas avoir la peur de l'électrique.
Mitsubishi Eclipse Cross, hybride rechargeable.
Alors, l'autonomie globale peut être de 600 ou 700 km. La seule chose, c'est que vous avez possibilité de rouler en pure électrique pendant une quarantaine ou une cinquantaine de kilomètres. Ça vous coûte 1,50€ des 40 km, des 50 km.
Alors, 1,50€, ça, oui, c'est pour le mode tout électrique. Sinon, comptez en moyenne une consommation d'à peine 3 litres aux 100 km.
Alors, alléchant, en effet, mais est-ce qu'on fait vraiment des économies ?
Alors, si vous roulez que sur autoroute, non. Mais si vous roulez souvent en ville, oui, d'autant que vous avez encore un bonus de 1000 euros jusqu'en juin prochain et que la carte grise peut être gratuite. Cela dépend vraiment de votre usage, car le surcoût pour un hybride rechargeable à l'achat est de l'ordre de 2000 à 3000 euros.
Et pourtant, des ONG pointent du doigt ces véhicules.
Accusés d'émettre jusqu'à 12 fois plus de CO2 que prévu, mais en réalité, cela pollue plus si vous oubliez de brancher ces véhicules. Car dans ce cas, en effet, ils ne roulent pas en électrique et forcément avec des batteries de 300 kg. Cela fait grimper la consommation et les émissions.
Et bien, tout cela est parfaitement clair. Merci beaucoup Christophe Bourroux. La voiture hybride dépasse donc pour la première fois les voitures diesel en nombre de ventes en Europe. C'est historique, vous nous l'avez expliqué. Dans un instant, RTL vous révèle en exclusivité les coulisses de la nouvelle organisation de Pôle emploi pour améliorer la sécurité de ses employés. 10 mois après l'assassinat d'un agent à Valence, RTL événement est à suivre. Bonne journée à tous. Il est 7h17.
RTL Matin, Yves Calvi.
Document RTL.
RTL événement exclusif, 10 mois après le drame de Valence et le meurtre d'une conseillère Pôle emploi dans le département de la Drôme. L'institution Pôle emploi a renforcé sa sécurité. Quels dispositifs nouveaux sont mis en place ? Comment cela fonctionne au quotidien ? Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Vous avez pu accéder aux coulisses de cette sécurité renforcée et vous nous révélez les secrets de la sûreté d'une agence d'Île-de-France. Nous la garderons anonyme, justement, pour raison de sécurité.
8h45 dans la rue sombre, le rideau de l'agence est baissé, Pôle emploi paraît fermé. Pourtant, au-dedans, les équipes s'animent depuis près d'une heure.
Donc on va aller au briefing, 15 minutes avant l'ouverture de l'agence, tous les matins, il y a un briefing pour décliner les activités de la journée.
À l'accueil ce matin, Delphine et Naoufel.
Toutes les places sont égrenées, cela peut paraître anodin, mais connaître le poste de chacun pourra se révéler vital en cas de dérapage.
Bonne journée à vous, bon courage.
Nathalie, la directrice.
Un conseiller qui se sent en difficulté, il a ce qu'on appelle une alerte PC, 3 touches, donc WXC, et là l'alerte est lancée. Et ça s'affiche sur tous les PC et je reçois un SMS d'alerte. Du coup, je serai au courant qu'il y a quelqu'un que je situe avec son nom en position d'incivilité.
Depuis 10 mois, les 150 demandeurs d'emploi qui défilent chaque jour ne se sont rendus compte de rien. Pourtant, la sécurité est bel et bien renforcée.
Nous avons un lien direct avec le commissariat du quartier où nous sommes. On les a rencontrés, ils ont visité l'agence au mois de juillet et on les voit régulièrement passer dans leur ronde. Ils ouvrent la porte, ils nous disent tout va bien. Il y a un rapprochement qui s'est effectué.
À l'échelle de l'Île-de-France, au-delà des rondes de police et des caméras de surveillance, 600 bracelets de sécurité sont en cours de distribution. Sophie Damolina, directrice sécurité et qualité de vie au travail en Île-de-France.
C'est un bracelet donc, qui se met autour du poignet en plastique sous la forme un petit peu d'une montre connectée. Très discret.
La personne qui est en situation difficile exerce une petite pression au milieu du bracelet. Ça fait pas de bruit. Et ensuite, il y a une centrale qui est posée dans le bureau du manager accueil où il y a un témoin lumineux qui s'allume et signale une incivilité ou un comportement déviant.
D'ici une quinzaine de jours, toutes les agences de la région devraient être équipées de ces bracelets ultra discrets.
Anaïs, on comprend bien qu'il y a un travail d'équipement et un déploiement de dispositifs de sécurité. Mais sans les conseillers Pôle emploi, on imagine bien que le matériel tout seul ne servira pas à grand-chose.
Oui, le premier dispositif de sécurité, c'est en fait le contact humain. Depuis un an, les formations des 8000 agents d'Île-de-France ont aussi été renforcées, comme l'explique Sophie Damolina.
On a ouvert 2 fois 500 places sur la gestion des conflits, 100 de places, gestion des émotions. Nous avons réouvert des places cette année, puisque nous avions une forte demande sur ces thématiques.
Car à l'échelle de l'Île-de-France, sans forcément parler de drame, les incivilités sont quotidiennes.
Une insulte, un cri, un geste violent. Oui, tous les jours. C'est quelqu'un qui n'est pas content et ça, on peut le concevoir. Voilà, on n'est pas une agence de voyage. Quand on vient à Pôle emploi, c'est qu'on a besoin justement d'être accompagné et certains le verbalisent violemment.
Aux formations s'ajoute un réseau de 200 référents sécurité pour faire baisser les tensions et développer encore l'humain. Ce travail débute chaque jour dès l'ouverture des agences. Il est 9h dans notre agence Pôle emploi. L'heure où l'agent de sécurité entre en scène.
J'ai la clé pour ouvrir la porte de l'agence. La porte est ouverte, donc j'ai commencé à monter les grilles. Bonjour. Ceux qui ont déjà les rendez-vous aujourd'hui, commencez à ouvrir les sacs.
Une quinzaine de personnes s'engouffrent dans l'agence.
Ne me poussez pas, là.
J'ai un rendez-vous ce matin.
Il est question d'argent pour tenir le mois, d'actualisation, de radiation. Les inquiétudes sont fréquentes.
J'ai plus de conseillère, j'ai plus rien.
Si, vous avez une conseillère.
Et quand le ton monte, parfois...
Ça m'est déjà arrivé de monter un peu le ton, quoi, de dire non mais là vous vous foutez de nous, quoi, c'est pas possible.
Eux sont très calmes, ils font calmer les gens.
Les agents comme Rémi et Clémence appliquent leur formation.
Même si on peut pas vous donner de réponse tout de suite dans les médias, on va s'activer pour chercher une solution. Même si le négatif est plus facile à sortir, on arrive quand même à avoir des compliments et des mots positifs.
Quand la personne prend un ton plus élevé, vous prenez un ton plus bas. Moi, ça a toujours marché en faisant ça.
Si on résume, Anaïs, Pôle emploi a renforcé ses dispositifs de sécurité et la formation de ses agents, mais un drame aussi terrible que celui de Valence, avec un agent assassiné, est-ce que Pôle emploi est aujourd'hui en mesure de l'éviter ?
Dans l'agence que j'ai visitée, dans les bureaux individuels, vous avez toujours une petite issue cachée.
Tous les bureaux ont forcément une coursive d'échappement pour pouvoir s'échapper s'il y a un souci.
Mais tous le disent, conseiller, direction, peu importe la qualité de la sécurité, il restera toujours une part vulnérable.
Aucun dispositif ou moyen humain ne peut malheureusement se mettre en travers de ce genre de personnage.
C'est un drame qui peut arriver n'importe où en fait. Le jour même, effectivement, c'était très dur. Voilà, mais après, dans notre manière au quotidien de travailler... J'ai pas pensé plus que ça par la suite.
Les conseillers vivent avec, en pensant davantage à expliquer le quotidien, expliquer les nouvelles règles qui rendent plus dur l'accès à une indemnité chômage, par exemple, sous l'œil, toujours attentif.
J'avais oublié de mettre le masque, s'il vous plaît.
De l'agent de sécurité.
Merci beaucoup Anaïs Bouissou. RTL en immersion dans les coulisses de la nouvelle organisation de Pôle emploi pour sa sécurité.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Notre pépite musicale de ce lundi matin, s'il vous plaît.
Alors, il y a 20 ans, le 29 novembre 2001, le plus discret des Beatles, l'ami d'enfance de Paul McCartney, George Harrison, nous quittait à l'âge de 58 ans. On oublie qu'il est aussi l'auteur-compositeur de 23 chansons du groupe. On lui doit les trois merveilles, hein, Something, Here Comes the Sun et While My Guitar Gently Weeps.
Absolument.
Je vous propose ce matin quelques pépites des Beatles moins connues, signées et chantées par George Harrison. Ce formidable morceau de 1968, par exemple, Savoy Truffle.
Ah. Oui.
Cette chanson qui est très jazz a été reprise par Ella Fitzgerald.
Non.
Je conseille aussi sa version qui est formidable. Savoy Truffle, les truffes, un morceau de l'album blanc inspiré, figurez-vous, par la passion d'Eric Clapton pour le chocolat. Autre composition de George Harrison sur le disque Rubber Soul, Think for Yourself.
And though you still can
C'est le premier morceau un peu contestataire des Beatles. Il a apporté ça aussi, George Harrison. Mm-hmm. Il s'adresse à quelqu'un en lui reprochant ses mensonges. Et George Harrison avait dit « J'ai été inspiré par le gouvernement ». Autre titre des Beatles, c'est signé Harrison sur l'album Let It Be, « I, Me, Mine ». Une chanson issue de la toute dernière session d'enregistrement des Beatles, oui, sans John Lennon qui avait déjà claqué la porte. Le texte de George Harrison évoque les problèmes d'ego. Tout est dit, tout est résumé. George Harrison était donc dans l'ombre du duo Star Lennon-McCartney, mais il a signé quelques pépites pour les Beatles.
Merci beaucoup Anthony, on se retrouve demain et à tout moment sur l'appli RTL. À demain. Mal à interrompre George Harrison et les Beatles. Nous sommes d'accord au bonheur.
Ah, ça se comprend.
Bah oui, mais c'est pour vous permettre de nous donner votre météo dans quelques instants. Et ce sera une très bonne chose. A tout de suite avec Louis Baudin sur RTL.
Bonjour, c'est Monique Younes.
Laissez-vous tenter.
Je m'appelle Laurent. Je vais vous présenter mes imitations.
Et toutes les imitations de Laurent Gérard sans modération, vous les retrouverez à 9h. Il est notre invité dans Laissez-vous tenter.
Vas-y ma Céline, là, continue l'affaire. Lâche pas, show must go on.
Comme chaque après-midi, nos grosses têtes seront fidèles au poste de 15h30 à 18h. Et c'est Elie Semoun qui nous parle des noms de famille ce matin.
Tout le monde a rigolé. Un nom de petites annonces. Bonjour, je suis Loïc Lognon. Bonjour, je suis Patrick Lognon. Bonjour, je suis Véronique Lognon. Nous sommes là parce que nous avons un problème de patronymique. Nous aimerions changer notre nom de famille.
Le rang d'oignon.
On est tous, bah, on est tous en rang. Ouais.
Bonjour, je suis Jérôme Échalote. Je me sens un petit peu exclu.
Tu vois.
Bonjour, je suis Jacqueline Haye et je sens mauvais. Bonjour, je suis Patrick Échalote.
Et bon, dites monsieur voilà. L'oignon qui nous écoute à Saint-Jean-sur-Mayenne.
Il veut se peler en ce moment, lui.
Mais on va finir par faire pleurer monsieur l'oignon.
Ah, c'est joli.
Oh, Ariel.
Et voilà.
On vient de me sauter, vous avez une technique concernant l'oignon.
Moi ?
Oui.
Ah non ?
Non, mais c'est quoi ? Pardon ? Les épaisseurs ? Oh là là, oui, alors c'est moi, non, mais c'est en régie, ils font du quatrième degré maintenant.
Ah oui,
Jacques, moi, le second, je rentre pas toujours dedans. Bon.
Non, on ne fait pas la météo avec les pleurs d'oignons, c'est ça, vous voyez.
Oui, ça, on est bien d'accord. Non. Alors, je vais quand même préciser qu'on retrouve de 15h30 à 18h nos grosses têtes avec Bernard Mabie, Sébastien Thoen, Stevie Boulet, Michel Bernier, Yoann Rioux et Valérie Mérès. Alors, je pense qu'en cela, Raphaël Nivoua voulait évoquer les différentes couches qu'on peut mettre pour qu'on ait un petit peu moins froid. Et en l'occurrence, le froid est bien présent.
Et bien présent, effectivement. Avec des gelées quasiment partout hein, ce matin. On descend jusqu'à moins 4 degrés à Guéret, à Millau, à Aurillac, moins 3 degrés à Mende. Mais bref, ça gèle partout, sauf en bord de mer. Donc attention, prudence, parce que c'est-à-dire que la neige qui est tombée ces dernières heures, bah, elle est toujours là. Si elle s'est un peu transformée, elle a provoqué du verglas. J'ajoute qu'il y a encore quelques flocons qui tombent, là, notamment sur le Poitou, le Limousin. Ça va glisser vers le sud, donc là aussi prudence. Quelques averses de neige dans l'est. Alors cet après-midi, quand même, on va vers une nette amélioration. Il restera des nuages et des averses forme de pluie ou de neige au sud de la Garonne. Beaucoup de neige sur les Pyrénées, d'où un fort risque d'avalanche. On attend quand même 1,50 m de neige ici à la fin de la journée sur les Pyrénées, notamment du côté de la Montgie, à Cotreau.
C'est
très important. Oui, c'est vrai. Beaucoup de neige également du côté des Alpes. On a eu jusqu'à 40-50 cm. Et là aussi, prudence donc ce matin sur toutes les voies secondaires où on peut avoir des chaussées glissantes. Alors cet après-midi, nette amélioration avec le retour du soleil quasiment partout, sauf donc dans le sud-ouest ou encore entre les Alpes et l'Alsace, où là, il reste aura des nuages et quelques flocons. Beaucoup de soleil également près de la Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontane. Et puis après ces gelées matinales, pas plus de 1 à 4 degrés seulement cet après-midi du Massif central au nord-est, 5 à 9 ailleurs et 9 à 14 près de la Méditerranée.
Merci Louis.